Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
C'est mardi le 18 août 2026. Bonjour, je m'appelle Denis Martin Chabot. Bienvenue à l'émission Au quotidien. Allô Maurice Bolduc.
Oui, salut.
Alors je vais le faire. Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? On trouve une réponse, n'importe quoi. C'est quatre fois meilleur que dirait, dirait notre cher.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Oui, oui, c'est très, très bon. Alors, ben oui, allô André Lacombe.
Bonjour Denis Martin.
Bienvenue à l'émission ce matin. André qui est notre chroniqueur aujourd'hui. Oui, hein. En fait, c'est la vraie réponse, c'est que c'est quatre fois mieux que de dire une seule fois.
Ben oui.
Puis ça Absolument. Fait quatre fois plus de bien. Absolument. On peut mettre plein de choses comme
c'est
ça.
C'est comme l'amour, on n'en a jamais trop.
Ah, là, par contre, je vais me garder une petite gêne là-dessus.
Au sens universel,
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au sens universel. En fait, qui disait c'était le défunt chef du NPD, vous vous rappelez, Jack Layton, oui. qui avait dit que l'amour est plus fort que la haine. Voilà. Et mon Dieu, qu'on aimerait bien que ça soit vrai ces jours-ci. Mais voilà. Ben écoute, bonjour à tout le monde. C'est une émission donc aujourd'hui très remplie. D'ailleurs, ben on l'a entendu, André Lacombe qui va nous faire une chronique ce matin, on va parler de l'éphéméride du jour.
Oui. Alors éphéméride du 18 août, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire en ce 18 août? Je rajoute toujours à ça le prénom du jour, le thème de la journée mondiale. En fait, aujourd'hui, c'est deux journées mondiales pour le prix d'une.
On va faire une petite parenthèse pour le prénom du jour.
Oui.
C'est Hélène.
Absolument.
Ah, on va lui dire un petit coucou. Je ne sais pas si elle nous écoute présentement, notre belle Hélène Denis qu'on adore. Alors, un petit coucou à toi, Hélène. C'est ta journée, c'est ta fête. À l'anniversaire, c'est une chose, mais c'est la fête des Hélènes.
C'est la fête des
Hélènes. On va en discuter.
C'est la fête de ma conjointe aussi qui s'appelle Hélène.
Ah oui, bon, ben écoute, ça. Et puis, je pense que c'est la fête aussi de... comment est-ce qu'elle s'appelle, cette muse de rock voisine, Hélène?
Hélène, ah ben oui.
Vous savez que pour la dernière émission que je vais animer avant le retour d'Hélène, je me fais toujours le plaisir d'y faire jouer cette chanson-là. Je vais le faire encore cette année. Bon, là, on prend beaucoup de temps et puis je ne vais pas trop en prendre parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Un petit tour, à la météo aujourd'hui, alternance soleil et nuages pour l'Ontario et le Québec, maximum 26, humidex à 31 encore. Dans les provinces atlantiques, c'est nuageux, 60 % de probabilité d'averse, maximum 22, humidex à 29. Et dans l'ouest, partout dans l'ouest, incluant la Colombie-Britannique, c'est ensoleillé, maximum 24 à 27. Ça, c'est vraiment facile, ça ne prend pas trop de temps une météo comme ça. Des fois, l'hiver, c'est compliqué parce que c'est différent d'une province à l'autre. Et comme on diffuse partout, je fais le petit effort de parler à tout le monde de leur météo. Aujourd'hui, donc, à l'émission, outre donc cette chronique avec André Lacombe, on va aussi recevoir Michel Poitevin pour parler d'économie. Puis on a beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Il y avait hier ce qu'on appelle le taux d'inflation qui va servir de guide à la Banque du Canada pour l'établissement du taux directeur le mois prochain. Il y avait aussi cette entente avec Terre-Neuve-Labrador et aussi les négociations de dernière minute qui fait suer beaucoup, beaucoup de monde, puis avec raison, avec les États-Unis et son très imprévisible président Donald Trump. On verra ce que ça va donner. Je reçois aujourd'hui Frédéric Perard, qui est constitutionnaliste, professeur et chroniqueur. On va parler de son livre. C'est un petit bout que c'est publié, mais c'est un bout de temps je veux qu'on en parle parce que ça nous touche vraiment beaucoup ici à Canalène, parce qu'on représente beaucoup de personnes de plusieurs minorités et qui parle donc au chevet de la démocratie. Observation sur le démantèlement de l'État de droit, c'est paru aux éditions Somme Toute, un livre qui m'a beaucoup inquiété quand je l'ai lu. Et on va recevoir aussi à la chronique livre Anne-Marie Aubin. Je vais aujourd'hui vous parler de quelques petites dates, mais il y en aura plus avec André. Aujourd'hui, en 1920, c'est la ratification du 19e amendement de la Constitution des États-Unis, une étape décisive pour l'obtention du droit de vote des femmes. En 1932, c'est la naissance de Luc Montagnier, virologue français. Alors, il reçoit en 2008 une partie du prix Nobel de physiologie ou de médecine pour les travaux ayant conduit à la découverte du VIH à l'Institut Pasteur en 1983. Il est mort le 8 février 1922. Mais à partir de la fin des années 2000, il multiplie des prises d'opposition dépourvues de fondements scientifiques. On va même peut-être le dire qu'il était complotiste pendant la pandémie de COVID-19 en prenant des positions contre les vaccins. Et c'est donc ces positions qui conduisent à sa marginalisation dans la communauté scientifique. 1936, c'est la naissance de Robert Redford, qu'on connaît hein, comme acteur et réalisateur états-unien, né à Santa Monica. On se rappelle de lui dans Butch Cassidy et le Kid, L'Arnaque, Les Hommes du Président. C'est un homme, donc, un artiste qui s'est imposé comme figure très importante du cinéma indépendant aux États-Unis, autour du Sundance Institute. Il est mort le 16 septembre 2025. Il avait 89 ans. Et je rappelle aussi, Patrick Swayze était né cette date, en 1952, acteur, danseur, chanteur. On se rappellera de lui dans Dirty Dancing et Ghost. Ghost avec les mains dans la
scène poterie. Mémorable.
Oui, une scène mémorable. J'adore comment tu dis ça, André. Alors, il est mort le 14 septembre 2009. Et nous, on s'en va en musique.
Deux par deux, rassemblés, revisités par Superplage, accompagnés de Thaïs.
Je vais corriger une petite coquille que j'ai commise lors de mon éphéméride. J'ai parlé de Luc Montagnier qui était décédé en 1922. Vous avez compris qu'il est décédé en 2022. Alors, dans les unes aujourd'hui, tout d'abord, une dernière heure. Il n'y aura pas de référendum tant que Donald Trump sera au pouvoir. C'est ce qu'a évoqué Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui dans une publication sur les réseaux sociaux. Le gouvernement du Parti québécois ne tiendra pas de référendum tant que Donald Trump occupera la Maison-Blanche. Pour bien expliquer sa prise de position, il dit qu'on ne peut pas avoir de discussion éclairée et réfléchie alors qu'il y a un contexte aussi compliqué géopolitique. Donc, pas de référendum si le PQ est élu avant le départ de Donald Trump, ce qui devrait avoir lieu, je pense, en janvier ou février 2029. Donc, on a encore un petit bout avant qu'il parte. Ça, c'est s'il ne change pas les lois pour se lui permettre d'avoir un troisième mandat. Alors, on verra bien dans tout ça. Cela dit aussi, hein, le Parti québécois caracole dans les sondages. Ben, caracole. Il est toujours autour de 30-31 et il pourrait obtenir une majorité, mais je vais avec ça, parce qu'il y a tellement de divisions du vote et la façon que la carte électorale est au Québec. Par contre, l'appui au référendum, à un oui, à un référendum au Québec, ben, ça tourne à peu près à 30 %. Dans Le Devoir ce matin, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, dirigé par la première ministre Christine Fréchette, a dévoilé une nouvelle entente non définitive de 70 milliards de dollars avec Terre-Neuve et Labrador pour le développement hydroélectrique à Churchill Falls et Gull Island, prévoyant de garantir à Hydro-Québec l'accès à 10 000 MW d'électricité sur 50 ans. Ce projet inclut un engagement financier direct de 45 milliards de dollars de la Société d'État et une contribution de 6,5 milliards de dollars d'Ottawa. L'accord survient après l'abandon d'une première entente signée en 2024 sous François Legault, remise en question par le premier ministre terre-neuvien, élu par la suite, donc Tony Wickham. Alors que la ratification finale doit se faire d'ici mars 2027, bien c'est sûr que le dossier s'invite au cœur des enjeux électoraux québécois. Christine Fréchette soutient que la réalisation du projet dépend de la réélection de la CAQ, suggérant qu'un gouvernement péquiste pourrait compromettre les gains obtenus. De son côté, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, rejette ces accusations et réclame une évaluation transparente de l'entente avant toute prise de position définitive. Churchill Falls est une centrale hydroélectrique majeure située sur la rivière Churchill au Labrador, exploitée depuis un contrat historique signé en 1969 avec Hydro-Québec. De Montréal, les négociations commerciales à Washington s'intensifient sous l'ombre de menaces tarifaires de 50 % brandies par le président états-unien Donald Trump. Le ministre Dominique Leblanc poursuit des échanges secrets avec l'administration de Washington pour tenter d'éviter des surtaxes dévastatrices sur des secteurs stratégiques comme l'acier, l'aluminium et l'automobile. Face à cette pression, le premier ministre Mark Carney garde ses cartes cachées, affirmant négocier en position de force tout en misant sur des projets majeurs comme la récente entente hydroélectrique de Churchill Falls pour renforcer la résilience économique du pays. À l'approche de la date butoir, l'incertitude demeure entière sur la nature des concessions qui devront être consenties à Washington pour préserver l'accès au marché états-unien. Les provinces et les acteurs économiques locaux se trouvent réduits au rôle de spectateurs face à un processus décisionnel concentré entre les mains d'une poignée de responsables fédéraux. Le résultat de ces négociations déterminera si le pays saura contenir la tempête protectionniste venue du Sud sans compromettre les intérêts économiques fondamentaux. Dans Le Devoir, depuis ce matin, donc, Meta fait face à un procès historique devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie. L'entreprise est accusée par 4 États états-uniens d'avoir conçu Instagram et Facebook de manière à provoquer une dépendance chez les adolescents. L'affaire remonte à la fin des années 2021, lorsque les Facebook Files révélés par l'ex-employé Francis Haugen ont montré que Meta connaissait l'impact de ces applications sur la santé mentale des jeunes. Pour contourner l'immunité juridique accordée aux plateformes quant au contenu, les procureurs ciblent directement la conception des applications, donc l'image de défilement infini, les notifications nocturnes ou la collecte sans consentement des données des moins de 13 ans. Alors, en matière de sanctions, le plafond théorique est de 1400 milliards de dollars d'amende, mais les procureurs évaluent provisoirement le montant retenu autour de 200 milliards de dollars, en plus de la restitution des revenus publicitaires. Les États réclament des mesures de protection imposées d'office aux mineurs, incluant des limites de temps d'écran, le masquage des likes et une vérification stricte de l'âge sous le contrôle d'un superviseur indépendant. De son côté, Meta refute ces accusations. L'entreprise met en avant donc l'absence de consensus scientifique concernant la notion d'addiction aux réseaux sociaux, soutient qu'elle supprime les comptes des moins de 13 ans dès leur détection et affirme que la santé mentale dépend de multiples facteurs. Mais le grand créateur et président de Meta, Mark Zuckerberg, est appelé à témoigner avant un verdict attendu au début du mois d'octobre. Meta a réalisé plus de 130 milliards de dollars en chiffre d'affaires, ça c'est en 2023 seulement. On s'en va en musique.
Phrase fromagée par Bleu Jeans Bleu.
C'est la chronique d'André Lacombe, l'éphéméride du 18 août 2026. André, bonjour.
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 Oui.
Alors, on débute avec des thèmes de la journée mondiale et le prénom du jour.
Alors, journée mondiale, deux journées mondiales aujourd'hui. Il n'y en a aucune qui est officiellement reconnue par l'ONU. Mais il y a quand même deux événements bien établis. Alors, d'une part, la Journée mondiale de la recherche sur le cancer du sein, selon la fondation Dr. Susan Love, qui est établie en Californie, en passant depuis 1983. L'objectif, c'est de mettre en lumière les efforts scientifiques mondiaux pour vaincre cette maladie. Et je rappelle que le cancer du sein, c'est le plus répandu chez les femmes. Donc, ça en fait un sujet de première importance.
Mm-hmm.
D'autre part, selon l'organisme canado-américain Never Give Up Day, c'est la journée mondiale de la persévérance qui est célébrée depuis 2019 dans de nombreuses communautés, tant au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne. L'objectif, promouvoir l'importance de la persévérance dans l'atteinte de nos objectifs, au-delà du talent et de la chance, et surtout de ne pas abandonner dans les moments difficiles.
Ouais,
c'est bon de se le redire.
C'est bon de se le redire. C'est bon de savoir que, ben oui, on lâche pas.
On lâche pas.
On lâche pas. Et puis, c'est la journée...
Des Hélènes.
Oui.
Aujourd'hui, c'est le prénom du jour. Alors, grâce à Sainte Hélène, qui était la mère de l'empereur romain Constantin, et à ce qu'on dit généreuse chrétienne qui fit construire 3 basiliques pour protéger les lieux saints et les grottes mystiques. Et le prénom Hélène serait un dérivé du mot grec « hélé », qui signifie « chaleur », qui vient sans doute de Hélios,
ben oui,
le soleil, donc la chaleur du soleil.
La chaleur du soleil. Ben, on peut le dire, notre Hélène, à nous, elle est chaleureuse.
Chaleureuse, lumineuse, comme le soleil.
Tout à fait. Alors, ça s'applique. On va poursuivre avec quelques faits marquants qui sont arrivés un 18 août.
Oui, on reste dans le thème du soleil. Vous allez voir pourquoi. En 1868, découverte de l'hélium par l'astronome français Jules Janssen. Et c'est en observant une éclipse solaire, qu'il découvre dans l'atmosphère du Soleil un gaz, jusque-là inconnu, et qui sera appelé hélium, justement par référence au grec « hélios » pour le Soleil. Tout est dans tout,
Denis Martin. Tout est là. Aujourd'hui, là, c'est toutes les coïncidences, toutes sont là.
Oui, tout est là.
Ah, écoute, on va nous accuser de complotisme, si ça continue,
En 1914, à peine un mois après le début de la Première Guerre mondiale, le gouvernement conservateur canadien de Robert Borden fait adopter la loi sur les mesures de guerre qui accorde au cabinet fédéral des pouvoirs extraordinaires pour gouverner par décret, ce qui va entraîner la suspension des libertés civiles, l'instauration de la censure et l'internement de milliers d'étrangers vus comme étant des ennemis. C'est une page sombre de l'histoire canadienne.
Une loi qui a été appliquée plus tard, lors de cette fameuse crise de 1970.
Ah, mon Dieu, oui. Ça aussi, c'était plutôt sombre.
Je pense que la loi a été modifiée. C'est les mesures d'urgence maintenant.
Maintenant, on parle de mesures d'urgence, effectivement. Ouais. En 1930, le chien Pluto fait sa première apparition dans un film d'animation de Disney. En 1944, c'est la fin du gouvernement de Vichy, qui a été créé en 1940 par le maréchal Pétain suite à la capitulation de la France face à l'Allemagne. Et ça, c'est vraiment un événement qui revient dans l'actualité ces jours-ci, avec la sortie du film « La bataille de Gaulle », qui vient mettre en lumière le rôle déterminant joué par le général Charles de Gaulle dans la résistance face à l'ennemi. Très important, ça, dans l'histoire.
C'est un biopic, et je crois, ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai lu qu'il y aura une suite ou deux suites à ça.
Une suite, le 11 septembre. Oui, c'est un diptyque.
Un diptyque.
Ils appellent. Ah, okay.
Voilà.
Un film en deux parties. En 1954, Washington et Ottawa s'entendent pour réaliser la voie maritime du Saint-Laurent, qui sera inaugurée en avril 1959. Comme quoi, c'était possible à l'époque de s'entendre avec les Américains. En 1966, début de la révolution culturelle chinoise menée d'une main de fer par Mao Zedong ou Mao Tse-tung, selon la façon dont on le prononce, fondateur et premier dirigeant de la République populaire de Chine. On parle ici d'une révolution prolétarienne qui s'en prend au symbole du passé, rejette l'influence occidentale et détruit les installations dites « bourgeoises ». Et chacun se doit de lire avec beaucoup d'attention le petit livre rouge des pensées de Mao. Le petit catéchisme.
Oui.
C'était vraiment quelque chose, cette époque-là.
Petit livre que j'ai encore à la maison.
Ah oui?
Oui,
c'est ça.
Ben, écoute, on fait quand même des recherches, puis on doit savoir un peu de quoi on parle.
Absolument.
Et c'est intéressant parce que Mao a changé beaucoup, beaucoup de choses en Chine. Par exemple, il n'y a qu'un seul fuseau horaire, c'est le fuseau horaire de Beijing. En fait, on dit Pékin, mais Beijing, la ville du Nord, puis Nanjing, la ville du Sud. Uh-huh. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est un pays fascinant.
Absolument. Oui. En 1977, Stephen Biko, un étudiant militant anti-apartheid noir sud-africain, est arrêté par la police, puis détenu et torturé. S'entraîne son décès moins d'un mois plus tard, le 12 septembre. Et la polémique déclenchée par l'événement débouche sur la condamnation du régime sud-africain et sur l'embargo des ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud, qui est voté par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vraiment la bougie d'allumage qui a entraîné la chute du gouvernement anti-apartheid. Gouvernement de l'apartheid, pardon. Et en 2006, pour terminer les événements, des archéologues annoncent la découverte des vestiges de la première colonie française au Québec sur le promontoire de Cap-Rouge. C'est la colonie de Cartier et Roberval, qu'on appelle aussi Charlebourg-Royal, qui a été occupée entre 1541 et 1543.
Ouais, c'est un petit bout, hein?
Fait un bon petit bout de ça, mais c'est une page importante de notre histoire.
Bon, alors on va continuer maintenant avec quelques dates d'anniversaire.
Côté anniversaire de naissance, en 1909, Gérard Filion, ex-directeur du journal Le Devoir, reconnu notamment pour sa lutte contre le régime autoritaire de Maurice Duplessis dans les années 1950. En 1929, le chanteur français Hugo Frey hein, des ballades romantiques comme oui. Céline et autres. Mais il est toujours de ce monde, Hugo Free. Il a 97 ans aujourd'hui, quand même.
Quand même.
Hein? Mm-hmm. En 1933, le réalisateur de cinéma polonais né à Paris, Roman Polanski, à qui l'on doit notamment les films Rosemary's Baby, Le bal des vampires, Le pianiste, qui avait eu le César du meilleur film en 2003. Il vit principalement en France maintenant depuis longtemps, Polanski, depuis ses démêlés avec la justice américaine à la fin des années 1970.
Oui, il est accusé d'inconduite sexuelle. Hein?
Oui, tout ouais, à fait, ouais. avec une mineure. Mmh. En 1959, l'auteur, compositrice et interprète gaspésienne Laurence Jalbert, 67 ans aujourd'hui, on lui souhaite bonne fête.
Oui.
Et côté décès, en là, je vous ramène très loin en arrière, oui. Denis Martin, 1227.
J'étais tout jeune à l'époque.
J'étais très jeune. Moi aussi, d'ailleurs. Le premier empereur mongol, Genghis Khan, un génie politique et militaire, ça lui permet, semble-t-il, de conquérir la Chine, la Russie, la Perse, le Moyen-Orient et un territoire qui correspond à l'actuelle Europe de l'Est. Il a établi ainsi le plus vaste empire de tous les temps.
Alors, quand même.
Tout un conquérant. En 1823, quelques années plus tard, l'inventeur du parachute et premier parachutiste de l'histoire, le Français André-Jacques Garnerin. Il effectue le tout premier saut de l'histoire en 1797 au-dessus de Paris depuis un ballon à hydrogène. Et non, il n'est pas mort lors d'un saut en parachute, je vous l'affirme.
Vous savez ce qu'on dit, hein? L'esprit, c'est comme un parachute pour qu'il fonctionne.
Faut qu'il soit ouvert.
Faut qu'il s'ouvre. On continue encore du temps, là.
En 1850, le prolifique écrivain français Honoré de Balzac, auteur d'une œuvre monumentale, La comédie humaine. Quand je dis monumentale, là, plus de 90 romans, contes et nouvelles, 46 œuvres inachevées ou restées à l'état de projet. Je pense qu'en dehors d'écrire et dormir, il ne faisait pas grand-chose. Son ambition, c'était de décrire de façon exhaustive la société française de son temps. Je pense qu'on peut dire que ça a été exhaustif.
Oui.
En 1919, le Canadien Joseph Seagram, fondateur de la distillerie qui porte son nom jusqu'à sa vente en 2001, mais elle fut vendue, cette distillerie, une première fois à la famille Bronfman de Montréal en 1928 et eux avaient conservé le nom, Seagram.
Et on continue.
En 1940, Walter P. Chrysler, fondateur de la Chrysler Corporation en 1925. En 1998, Otto Wichterle. Qui est ce monsieur? Ben, c'est l'inventeur des lentilles de contact.
D'accord.
Hein, on lui doit quand même quelque chose d'important. En 1961, ça, cette invention-là. En 2006, le chanteur et aussi comédien québécois, notre crooner, Fernand Gignac. Plus de 50 ans de carrière, 31 albums, 75-45 tours. On dit que c'est un record canadien pour un interprète. Et en 2024, pour terminer, l'acteur français Alain Delon.
Ouais.
Depuis 1956... Il a attiré en salle plus de 60 millions de spectateurs en jouant dans 87 films. Acteurs les plus rentables du cinéma français avec De Funès et Belmondo en son époque.
André Lacombe, on termine là-dessus. À la prochaine.
À la prochaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je fais ce que je veux, ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux, ça m'en prend peu pour être heureux.
Woke up with a Corona, Montreal or Arizona. Got some whiskey in my soda, might just stand up in a coma. We're out here just looking for a good time. Doing anything to forget our 9-to-5. Job, si c'est que je la flush, je veux caler, caler, caler. Tout ce que le barman pourra me donner. Le cerveau en congé maladie. Tellement que je vois tout, et juste midi.
Je suis en vacances, puis je fais ce que je veux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Je shot, shot. Ma bière, une clé de soleil en plein air. J'peux-tu chaîner ma bête de mammifère? J'fais mon hot, hot, vélugra. Cocktail en main comme une diva. Fuck
ma job, je pécote Nicole, rien mieux qu'une bonne crème. Ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Là, je décale. Comme un bon vin d'une bonne cuvée. Dans mon hamac, je te vaché. J'ai pas d'attente pour la journée. Je décante encore. En table Saint-Pierre et Charlevoix. Je me craque une bière, je me sens chez moi. Comme font les Québécois. J'suis en vacances. Puis je fais ce que je veux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux. Ça m'en prend peu pour être heureux. J'suis en vacances. Puis je fais ce que je veux, ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux, ça m'en prend peu pour être heureux. J'suis en vacances, mais j'suis en vacances.
En vacances, je fais ce que je veux, par les formations classe moyenne et horloge Simard.
Mais je pense que l'économie prend pas de vacances. Hier, donc, on avait la publication du taux d'inflation et puis il y a les négociations commerciales avec les États-Unis, une entente avec Terre-Neuve au sujet de Churchill Falls. Bref, il se passe beaucoup de choses. Et notre invité, notre chroniqueur Michel Poitvin, qui est professeur d'économie à l'Université de Montréal, bien lui non plus ne prend pas de vacances, en tout cas pas ce moment-ci. Bonjour Michel.
Bonjour, non, je ne suis pas en vacances les mardis à 10 ans.
On aime bien ça. Donc l'inflation, Statistique Canada révélait hier de nouveaux chiffres d'inflation pour le mois de juillet.
Oui, une légère hausse. Là, bon, l'inflation fait un mini-yo-yo là, autour de 3 % depuis quelques mois. Et au gré de la guerre en Iran, puis du coût de l'énergie. Donc, pour juillet, l'inflation sur une base annuelle est à 3 % alors qu'en juin, on est à 2,8 % Au Québec, à 3,3 pour juillet versus 3,2 en juin. Mais en mai, au Québec, on est à 3,6. Donc, vous voyez, là, on est autour de 3 % ça monte un peu. Si on regarde les sous-composantes de l'indice, une d'intérêt, c'est le prix des aliments. L'inflation pour juillet, encore une fois, sur une base annuelle, est à 3,1 alors que en juin, on est à 3,9. Donc, l'inflation a ralenti un peu pour le prix des aliments. Et ça fait quand même 18 mois consécutifs où l'inflation, l'augmentation du prix des aliments est supérieure à celle de l'inflation de tous les biens, l'inflation générale. Puis on n'a pas l'impression que ça va diminuer rapidement d'ici peu pour les aliments. Là, avec ce qui se passe en Ukraine, la guerre en Iran, le prix des fertilisants, entre autres du transport, les prix augmentent. Donc, ça contribue pas là, à diminuer les prix de nos aliments. Mais on a quand même, on se rapproche du taux d'inflation, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, peut-être suite à ça, on peut se demander qu'est-ce qui va arriver avec les taux d'intérêt. La Banque du Canada, sa prochaine décision sur les taux d'intérêt est le 2 septembre. Les gens s'attendent à ce que la banque maintienne son taux directeur à 2,25 là, comme c'était le cas pour les 6 dernières annonces. Ce qui arrive, c'est que même si l'inflation est proche de... La Banque du Canada a une cible pour l'inflation d'entre 1 et 3 %. Puis là, on est vraiment proche de la borne supérieure là, du 3 %. Donc, on pourrait dire, est-ce que la banque va réagir? Mais en même temps, il y a toute la guerre commerciale, les tarifs qui mettent beaucoup d'incertitudes sur l'économie canadienne. Donc, je pense pas que la Banque du Canada va oser augmenter les taux à ce moment-ci. Elle devrait les laisser inchangés puis voir un peu comment l'économie évolue là, dans les prochains mois.
Bien justement, vous venez d'en parler, Michel, une nouvelle qui peut avoir beaucoup d'impact et sur l'inflation et sur l'économie, c'est ces nouveaux tarifs de 50 % qui devraient être imposés par l'administration de Donald Trump dès ce soir.
Oui, exactement. En juillet, là, souvenez-vous, je pense qu'on avait parlé à l'administration Trump là, un peu par pour contrer, pas contrer, là, mais pour j'ai le terme anglais, retaliate, là, ouais, je ne veux pas dire se revenger, là, ouais. Mais imposer des tarifs de 50%.
Des représailles, oui. C'est ça, des mesures de représailles, oui.
Des représailles, très bien, exactement. Donc, 28 milliards sur 28 milliards d'exportations aux États-Unis. Le chiffre peut sembler beaucoup, mais on exporte en gros 680 milliards vers les États-Unis. Donc, c'est à peu près 4% du total. Évidemment, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Là, on dit 4%, c'est pas beaucoup, mais pour certains secteurs, ben, eux, c'est 100% de leurs exportations, là. Qu'on parle le ciment, le meuble, les vins, bières et spiritueux. Il y avait certains produits de papier et carton, matériaux de bois. Donc, pour certaines industries, ça pourrait faire mal. Le gouvernement Carney veut essayer d'éviter ces tarifs-là qui prendraient effet, comme vous disiez, ce soir à minuit, là, donc le 19 août. Et puis là, la façon de l'éviter, c'est quoi? C'est de négocier, d'essayer d'arriver le plus rapidement possible à une entente, le fameux accord de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. C'est surtout la portion Canada-États-Unis, là, parce que les États-Unis semblent vouloir, au lieu d'avoir des négociations tripartites, semblent vouloir y aller à la pièce avec le Mexique et ensuite avec le Canada. Donc, l'enjeu de ces négociations, justement, il y a des irritants des deux côtés. Premièrement, si on regarde les tarifs sur l'acier et l'aluminium, là, l'administration Trump avait imposé des tarifs de 50%, puis ça, c'était à la planète entière, pas juste au Canada. Puis ça, c'était dans les premières moutures des tarifs en 2025. Le Canada aimerait bien les ramener à 10%, ces tarifs. Sur l'automobile, des tarifs de 25%, puis on sait que l'industrie de l'automobile est fortement intégrée. Le Canada-États-Unis, c'est fortement intégré. La frontière n'existe presque pas pour cette industrie. Donc, les tarifs de 25%, ça affecte beaucoup l'industrie de l'automobile, qui est surtout localisée en Ontario. Les États-Unis offrent de les baisser à 12,5%, là, mais le Canada juge insuffisant. Les chiffres que je vous donne sur les offres, ça semble avoir filtré, donc il n'y a rien de définitif là-dedans. Là, puis il y a peu d'informations qui est donnée sur les négociations en cours. Là. Donc, c'est un peu sous toute réserve, là, mais c'est ce qui semble ressortir jusqu'à présent. Un autre irritant majeur pour les Américains, ce sont notre fameuse gestion de l'offre pour les produits laitiers, entre autres. Les Américains trouvent que... Bon, on avait déjà expliqué comment ça fonctionne, la gestion de l'offre, c'est qu'on permet un certain quota d'importation de, par exemple, de fromages qui viennent des États-Unis ou d'Europe, une certaine quantité là, qu'ils peuvent importer sans tarif au Canada. Mais ensuite, toute quantité supplémentaire est sujette à des tarifs qui peuvent aller de 250 à 300, 350%. Ça, c'est pour protéger notre système de gestion de l'offre, là, qui maintient les prix un peu plus élevés pour donner une sécurité aux agriculteurs, là, aux fermes laitières. Donc, les États-Unis trouvent qu'ils n'ont pas assez de quotas d'importation par rapport à ceux accordés aux États-Unis, à l'Europe, donc ils aimeraient importer plus au Canada. Donc ça, c'est un irritant pour eux. Ils ne remettent pas en question la gestion de l'offre, mais ils aimeraient être capables d'en importer plus vers le Canada, libre de tout tarif. Évidemment, ça affecte beaucoup le Québec, là où une grosse partie de l'industrie laitière canadienne y est concentrée. Donc ça, c'est un enjeu pour notre province et nos agriculteurs. Autre irritant, l'alcool. Là, si vous vous souvenez, les provinces avaient décidé de retirer l'alcool américain des tablettes. Trump, il n'a pas trop aimé ça. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ont imposé les fameux tarifs de 50% dont on parlait. Ça complique un petit peu la situation parce que la décision appartient aux provinces, dans plusieurs provinces qui ont des SAQ comme chez nous, là, une firme gouvernementale qui vend l'alcool. Donc ça, c'est provincial, mais c'est le fédéral qui négocie avec les Américains. Alors, ça prendra une coordination entre les provinces. Il y a beaucoup de provinces qui ont dit, ben nous, on est prêts à céder là-dessus, mais il faut avoir des gains pour notre province, pas juste pour le Canada, mais pour nous aussi. Alors, voyez un peu les enjeux régionaux que ça peut causer. Mm-hmm. Bon, finalement, un autre irritant qui est toujours là, c'est le fameux bois d'œuvre. Là, ça revient toujours, même avant Trump, sous l'administration Biden et d'autres précédentes. Les États-Unis, ils ont toujours voulu imposer notre bois d'œuvre. Ils jugent que notre bois est l'exploitation du bois est subventionnée, puis là, ils veulent le taxer. Il y a des tribunaux de commerce international qui se sont prononcés, qui ont dit qu'on ne le subventionnait pas, mais ça revient toujours. Alors ça, c'est un autre enjeu. Puis les États-Unis aimeraient que ça soit un accord séparé. Donc pour eux, c'est quand même quelque chose d'important, puis ils ne veulent pas que ça fasse partie des négociations générales, si vous voulez. Mais finalement, là, on regarde, bon, les États-Unis nous en imposent beaucoup. On a des cartes dans notre jeu qu'on n'a pas, je pense, peut-être exploité autant qu'on le devrait, ou en tout cas qu'il serait possible de le faire.
Justement.
Ce sont les minéraux critiques. On sait qu'à l'échelle de la planète, il y a une soif énorme pour le lithium, nickel, cobalt, cuivre, qui sont des métaux qui sont très importants pour l'électrification des transports, notamment même la construction de matériel militaire. Nous, on en exploite au Canada. Les États-Unis aimeraient avoir un accès privilégié. Donc ça, on se rend compte qu'on a quand même un argument de négociation là, qui peut avoir du poids. Puis je suis sûr que nos négociateurs canadiens vont s'en servir. Une autre chose qui est plus ponctuelle, mais qu'en même temps, c'est beaucoup d'argent, les fameux avions de chasse F-35 américains produits par Lockheed Martin. Le gouvernement Mark Carney, il y a quelques mois, avait décidé de réviser la commande. Alors, en 2022, on avait fait une commande de 88 avions de chasse, potentiellement, et puis on s'était engagé à en acheter au moins 16. Là. Pour le moment, on a ces 16-là, mais les 72 restants, on pourrait décider d'aller ailleurs. Puis ça peut être important parce que si on va vers un fabricant européen, notamment il y a l'entreprise suédoise Saab, là, qui a un avion de chasse, le Gripen, qui pourrait être considéré. Donc ça aussi, ça peut être un argument de dire, bien là, si vous ne baissez pas vos tarifs, là, nous, on va acheter nos avions ailleurs. Puis, les avions, c'est pas comme des meubles ou tout ça. Chaque avion coûte très, très cher, donc c'est beaucoup d'argent en jeu. Puis ça peut avoir un certain impact là, sur ce secteur-là de l'économie américaine si on décidait d'aller ailleurs.
Donc finalement, le Canada n'a pas de munitions, n'est pas là les mains vides. Alors ça sera à suivre. Michel, on n'aura pas le temps de parler de Churchill Falls. Peut-être qu'on reviendra la semaine prochaine parce que c'est quand même un peu relié à tout ça.
Ça a été très long de tous ces enjeux. Churchill Falls, si vous voulez, on peut garder, je peux garder ça en manque. Là.
Oui, parce que ça sera encore d'actualité la semaine prochaine,
exact.
Clairement.
Exact.
Mais merci beaucoup encore, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir. Ça faisait un petit bout que je voulais parler de ce livre, Au chevet de la démocratie, observations sur le démantèlement de l'État de droit. C'est paru aux éditions Somme toute. C'est le chroniqueur, professeur et surtout avocat constitutionnaliste Frédéric Bérard qui en est l'auteur. Bonjour Frédéric, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup Denis Martin, bien aimable et bien aimable de d'avoir relancer malgré mon indiscipline.
Ah, ben non, mais c'est correct, hein? On peut pas être disponible tout le temps à la dernière minute comme ça, mais merci d'être là. Alors, il y a 12 ans, Frédéric, tu publiais La fin de l'état de droit, un titre que tu trouvais à l'époque presque trop alarmiste. Alors, aujourd'hui, le recueil retraçant plus d'une décennie de ce que tu as qualifié de dérive, la réalité a-t-elle dépassé tes craintes?
Ah oui, je dois dire honnêtement, c'est oh là là, parce que si on se ramène au moment où on a publié La fin de l'état de droit, c'était 2014, si ma mémoire est bonne. Mais bon, on préparait ça, je ne sais pas, 2013, évidemment. Et il se passait des choses, bien sûr. Puis, mais bon, comment je dirais? Je voyais que ça s'en allait pas du bon côté, bien entendu. Et je voulais alerter les gens, bien entendu. Et l'éditrice, mon éditrice de l'époque, qui est décédée depuis, et dont je salue la mémoire, Marie-Pierre Baraton, avait dit, bah, parce qu'on n'était pas capable de trouver le titre, en fait, à vrai dire, là, ça finissait plus, ça faisait, je sais plus, quelques semaines, peut-être même mois qu'on. Bref. Et elle m'appelle un bon matin, elle dit, ça y est, Frédéric, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Le titre. OK, vas-y. Alors, ce sera la fin de l'état de droit. Je dis, non, non, ça ne va pas être la fin de l'état de droit, Marie-Pierre, ça n'a pas de bon sens. Mais elle dit, mais pourquoi? Ben, je dis, parce que je vais passer pour une espèce de wobo là, qui essaie de faire peur aux gens. Ce n'est pas sérieux. Je ne crois pas que c'est la fin de l'état de droit. Mais elle dit, c'est ce que tu annonces dans le livre. Je dis, ben, un petit peu, mais je veux dire, c'est pour conscientiser les gens. Je ne crois pas fermement. Alors, l'entente aura été le compromis. Elle dit, ben, on va mettre un point d'interrogation et puis ça finit là. Puis elle m'a pratiquement raccroché la ligne au nez. Alors, comme c'était mon premier livre, ça a été ça. Et puis, bon, maintenant, est-ce que je réutiliserai ce titre aujourd'hui? Bien entendu que oui. Est-ce que je mettrai le point d'interrogation? Ben, ça, c'est pas si clair.
Oui, parce que j'ai l'impression que le livre écorche l'ensemble du spectre politique. Hein? Ça a commencé à ce moment-là avec Stephen Harper, jusqu'à Justin Trudeau. Le nouveau livre aussi passe par Jean Charest, François Legault. Pourquoi démontrer donc cette érosion des libertés? Parce que quand on parle de la fin de l'État de droit, c'est vraiment des libertés. C'est pas juste un camp là, qui est responsable de ça.
Ah non, mais ça, t'as raison de le dire. Puis moi, ça me fait toujours un peu rigoler quand les gens sur les médias sociaux ou ailleurs essaient de me cataloguer comme ah, c'est un libéral fédéral ou c'est un Québec solidaire ou c'est un ci ou c'est un ça. J'espère que vous m'avez jamais lu pour dire des affaires comme ça. Puis pour moi, c'est pas. Moi, je fais pas de la chronique, Denis Martin, je fais pas du commentaire. Parce qu'il y a un parti qui m'intéresse plus. Honnêtement, il ne m'intéresse pas les partis. Bien franchement, s'il m'intéressait, je me présenterais en politique. Ce que je ne fais pas parce que je déteste l'esprit partisan. Ben, en fait, c'est bien correct s'il y en a qui veulent le faire, mais moi, ça accorde pas du tout avec ma personnalité et avec ce que je souhaite faire dans la vie. Ce qui fait que quand on est, je pense, neutre dans notre appréciation de ce qui se passe, en fait, peut-être pas neutre, mais au moins objectif. Oui, tous les partis ont cette nouvelle tendance, ont adopté cette nouvelle tendance-là, qui est très occidentale, hein, par ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le Québec, ça n'a rien à voir même avec Ottawa. C'est une tendance occidentale qui s'est bien entendu accélérée, vitesse grand V, depuis 2016 avec Trump. Trump 2.0, on n'en parle même pas. Puis on peut même dire que le Québec est un petit havre relativement sympathique côté État de droit quand on regarde d'autres régimes, notamment en Europe. Mais bref, oui, donc tous les partis ont contribué en quelque sorte à cette débâcle, même si la débâcle est quand même relativement minimaliste ici versus ailleurs.
Bon, alors, quand on parle de l'état de droit pour plusieurs personnes, c'est un terme peut-être qui n'est pas très compris. On parle de quoi exactement?
Ouais. Ben effectivement, il y a plusieurs, des fois, il y a certaines confusions conceptuelles, mais moi, j'aime bien dire que l'état de droit repose sur trois principes de base qui sont relativement simples, je crois. Le premier, c'est qu'il y a une seule loi pour tous. Alors, que tu sois premier ministre, que tu sois président ou pas président, si par exemple, tu as violé des femmes, ben, tu vas être condamné par la justice, puis tu vas te ramasser en prison. Hein. L'autre principe de base, qui est très important aussi, c'est que toute la puissance publique, donc par exemple, une action gouvernementale, une loi ou autre, ben, tient sa source dans la règle de droit. Donc, par exemple, quand les policiers agissent de manière X, il faut que la loi le prévoie. Quand un premier ministre agit de manière Y, il faut que ce soit permis par une loi habilitante. Et quand la loi est adoptée, il faut qu'elle respecte la Constitution. Et la troisième condition d'un état de droit en santé, et celui-là en a reçu plein la gueule lui aussi, c'est l'importance du pouvoir judiciaire qui joue le rôle d'arbitre, qui vient punir, sanctionner les violations à l'état de droit, essentiellement. Et pourquoi je dis que celui-là en a plein la gueule? Regarde partout en Occident, plusieurs des politiciens qui font la promotion justement de ce qu'on appelle l'espèce de gouvernement des juges. Les juges sont méchants. Il faut que la démocratie, comme si la démocratie était une démocratie sans état de droit, pouvait s'exercer, puisse le faire donc sans juge. Bref, voilà, je te dirais que c'est pas mal les trois conditions. Puis là-dessus, tu l'as dit tout à l'heure par la bande, bien sûr qu'il y a des droits fondamentaux à préserver, mais qui va les préserver, ces droits fondamentaux-là? Ben, il y en a qui disent, ben, c'est le peuple. Moi, je suis désolé, puis évidemment que je suis un démocrate, évidemment que j'aime bien le peuple, mais c'est pas au peuple, c'est pas à la majorité de décider des droits des minorités. T'sais, on le voit bien là, actuellement, ce qui se passe aux États-Unis, la communauté LGBTQ+, en a absolument plein la gueule. Les personnes trans se font expulser de l'armée. On parle de faire passer des tests de testostérone. Je te parle même pas de la communauté noire. Je te parle même pas. Donc, bref, est-ce que les minorités peuvent être protégées par la majorité? Quand ça va bien, quand c'est calme, la réponse, c'est oui. Mais quand ça commence à se gâter, par exemple, quand il y a une guerre culturelle, comme en l'espèce actuellement aux États-Unis, bien entendu, partout en Occident aussi, ben là, ça devient compliqué parce que mathématiquement, c'est assez difficile pour une minorité de pouvoir avoir gain de cause au final si tout passe par une espèce de vote.
Frédéric, moi, je te suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux et je suis aussi ce que tu écris, tes commentaires, tes chroniques. Et mon Dieu, aujourd'hui, quand je pense à tes prises de position, notamment sur la présomption d'innocence dans l'arrêt Jordan,
Oui.
sur la. Comment t'expliques que ça fait tant grincer des dents le fait que tu prennes des positions en faveur justement de la défense des droits des minorités ou des droits fondamentaux?
Ben, tu vois, c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que si, ben pour moi, pense-y, on appelle ça des droits fondamentaux. Il y a deux mots dans droits fondamentaux. Il y a droit, habituellement, un droit, ben, c'est pas négociable. Puis il y a un droit qui est fondamental, ben, je pense qu'il est encore moins négociable. Donc, moi, quand je te dis qu'il y a un paradoxe, mais peut-être même une ironie, c'est qu'il n'y a rien de particulier à défendre des droits fondamentaux en temps normal, là. C'est un paradigme, c'est supposé, ben oui, on est pour ça, nous, les droits fondamentaux. Mais là, très clairement, on ne l'est plus tant que ça en faveur des droits fondamentaux, hein, qui sont attaqués de toutes parts. Puis là, je t'ai parlé des droits des minorités, mais on pourrait parler de la liberté de presse, on peut parler de la liberté académique, la liberté d'expression, ben, et ainsi de suite, d'autres droits à l'égalité aussi. Ce qui fait que si ça fait grincer, je pense, c'est parce que justement, par définition, je suis à contre-courant en disant, ben non, les droits des minorités méritent d'être protégés, méritent d'être défendus. Albert Camus disait, la démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais bien la protection des minorités. Moi, j'essaie de rappeler un peu d'où est né le paradigme des droits fondamentaux. Puis il est né de où? Ben, il est né après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Ben, parce qu'il s'est passé des choses à ce moment-là. Puis on s'est dit, on veut plus tomber dans le même piège. Alors, si ça fait grincer que je défends les droits des minorités, eh ben, que ça grince. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Grincez tant que vous voulez. Et peut-être, je l'espère, que dans X temps, X années, décennies, va donc savoir, on va regarder ce qui s'est produit ces dernières années, puis on va se dire, mais c'était quoi cette folie-là, là? Pourquoi c'est quelle crampe au cerveau on a eue? Et les petits promoteurs de l'extrême droite, les petits promoteurs de faisons foirer l'État de droit, les petits promoteurs de la haine envers les minorités, qu'elles soient sexuelles, religieuses, raciales ou autres, peut-être que ces gens-là passeront éventuellement au banc, comme d'autres ont passé au banc dans les années 60.
Passeront du mauvais côté de l'histoire. J'aimerais terminer là-dessus. Est-ce qu'on peut être optimiste?
Écoute, j'ai une grande fille qui vient d'avoir 25 ans hier. Je peux pas répondre qu'on ne puisse pas être optimiste. Albert Camus encore, puis je finis avec ça, disait, celui qui espère en la condition humaine est un fou, mais celui qui désespère est un lâche. Eh bien, j'aime mieux être fou que lâche.
Oh, c'est une belle finale. J'ajoute rien. Frédéric Bérard, je rappelle que ce livre s'intitule « Au chevet de la démocratie, observations sur le démantèlement de l'État de droit ». C'est disponible en librairie. Je l'ai lu, j'étais en état de choc. C'est pour ça que je t'ai demandé une entrevue. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui.
C'est vraiment gentil, bon show, puis bravo pour le travail que tu fais. On a besoin de voix dissidentes, de voix parallèles, plutôt que le gros mainstream qui avale parfois la réflexion critique. Tiens.
Ben, j'accepte le compliment. Merci beaucoup.
Fais bien. Salut. Ciao, ciao.
Rappel météo, Québec, Ontario, alternance de soleil et de nuages, maximum 26. Il y a des humidex quand même autour de 31. En région des provinces atlantiques, c'est généralement nuageux. Probabilité d'averse, brouillard ce matin, maximum 22, humidex 29. Et dans tout l'ouest du pays, c'est ensoleillé, pas d'humidex, autour de 24-27. Après la pause, c'est notre chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Et après ça, ben, un petit peu d'actualité qui touche les personnes en situation de handicap et d'autres diversités. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Mais on va aller tout de suite à notre chronique livre. Aujourd'hui, on va rejoindre Anne-Marie Aubin par Zoom, par visioconférence. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va bien. Oui, oui. Ben oui, malheureusement, on a eu des soucis de son. Ça arrive avec parfois des interférences, mais je pense qu'avec le Zoom, ça va peut-être aller mieux. On va l'essayer du moins aujourd'hui. Merci d'essayer ça avec nous. Merci d'être là aujourd'hui, Anne-Marie. On va parler de la quatrième édition du festival Vivace qui a lieu à Maria en Gaspésie. C'est du 7 au 9 août prochain. En fait, ça a eu lieu, excuse-moi. Ouais.
Oui, alors c'est une équipe de 3 personnes ici dans le village, particulièrement Suzy Larrivé et Jean-François Dugas, qui ont créé un organisme qui s'appelle Poèmes en nous et qui fait diverses activités littéraires, artistiques de toutes sortes, la danse, la science, les arts visuels. Et il y avait lieu le festival Vivace qui a été créé en 2022. Et dans sa quatrième édition, moi, j'ai assisté à 2 événements dont je vous parle, un lancement aux éditions Personnages et le spectacle Architecture de la joie. Alors, les éditions Personnages, que je connaissais pas vraiment, c'est une maison d'édition acadienne qui a été fondée dans les années 80 à Moncton et qui publie en français les littératures de l'Atlantique. C'est la plus ancienne maison d'édition acadienne qui est toujours en fonction. Ils ont une vision large, inclusive et décolonisatrice de la littérature de l'Acadie. Et parmi les publications, on lançait entre autres « Le flot et le jusant ». Alors ça, c'est écrit par Sophie Rochefort. « Le flot et le jusant », pour les gens qui ne savent pas, c'est comme dire la marée haute, la marée basse. C'est tout à fait ce que l'on vit quand on vit en bord de mer. Et puis c'est dans la collection Poésie. Donc Sophie Rochefort, il faut savoir qu'elle est née en 1976 à Gaspé. Donc elle a vu les marées beaucoup, et puis ensuite elle est allée vivre sur la Côte-Nord avant de revenir à Gaspé, et maintenant elle vit à Québec, elle est professeure de littérature au Cégep Limoilou à Québec. Et puis dans ce livre-là, ben, il est question évidemment de ce décor qui est la Gaspésie, du rivage, de ce que la marée amène, ce qu'elle rapporte, ce qui disparaît, ce qui reste. Donc, c'est un peu en filiation avec le temps qui passe dans cet espace sauvage et fragile qu'est le bord de mer. Donc, c'est divisé en 5 chapitres et chaque chapitre a un titre qui rappelle la mer. Par exemple, submersible, belvédère, vives eaux, mortes eaux et au rivage. Et quand on ouvre le livre, la mise en page peut étonner un peu parce que parfois le texte est complètement au haut de la page et parfois complètement en bas à la page suivante. J'ai fait un parallèle avec la mer qui se pointe et qui disparaît, qui reste au bord, un peu comme les vagues sur la mer. Et donc, ça fait place à un certain mouvement dans notre lecture et ça nous amène à parfois l'introspection, parfois la passion, le désir qui est évoqué par les textes qui sont là. Le territoire est présent partout. C'est clair que cette fille-là, elle est gaspésienne, ça se nie pas. Les images sont décrites comme le décor est décrit, immense, et elle, toute petite, face à ce paysage sauvage qui finalement est resté en elle, même si elle ne vit plus en Gaspésie. Alors, je vous donne un petit exemple. La sueur mouille nos robes, nous goûtons la peau, ambroise des intimités, nos épaules nues s'accordent, s'échangent la moiteur d'un oxygène liquide. Au
C'est beau.
chapitre suivant, là on est complètement au bas de la page, ça dit: Dans le vent fantasque, rien ne trouble nos rêves, seul sur la grève neuve, les feuilles du chêne virevoltent parmi les récits étendus contre le cran rouge. Alors le vocabulaire, le décor, tout fait partie du paysage maritime, des saisons aussi qui passent. À un moment donné, on est au printemps, on est en hiver, la neige est là, mais la mer est toujours là, le décor est puissant. Et il y a un personnage enfant auquel on fait allusion qui peut-être rappelle son enfance à elle, et un personnage plus vieux qui peut être une personne qu'elle a connue là-bas. Alors, je vous donne un exemple. Les oiseaux se dispersent, le ressac défolie la côte. Je plonge dans la déferlante, eux gagnent le ciel. Alors, dans toutes ces splendeurs qui sont décrites à travers le temps, à travers l'introspection de l'artiste, ben évidemment, le décor prend toute la place. Et les lieux sont nommés, par exemple, le couchant saigne sur la York. La York, c'est une rivière à Gaspé, se renverse en garance déjà affadie, le temps de l'écrire. Rien ne dure. J'ai le devoir de lester chaque mot de beauté, d'en retenir les éclats. Donc, un livre qu'on lit lentement, qui nous rappelle la mer, qui nous rappelle aussi la solitude et la petitesse de l'être humain dans le monde, dans le grand décor, dans l'espace, et aussi cette solitude qu'on peut sentir quand on est de retour là où on a grandi, où tout est pareil, mais à la fois différent. Je peux dire qu'elle porte la Gaspésie en elle et que dans ses veines doit couler un peu d'eau de mer salée, parce qu'elle le décrit avec beaucoup de passion et de conviction, d'authenticité. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce livre, ce recueil, Le flot et le jusant. C'est la deuxième publication de l'autrice qui avait publié avant, chez un autre éditeur, Des saisons intranquilles chez Trois Sistas en 2021. Alors voilà pour la poésie chez Personnage, une maison d'édition à découvrir dont je reparlerai sans doute.
Oui, je pense qu'il y a un autre titre dont tu veux nous parler. Est-ce que j'ai bien... Je vais juste m'assurer que j'ai bien lu.
Maintenant, c'est le spectacle
Oui, le spectacle.
Architecture de la joie.
Voilà.
C'est un
Architecture de la
livre
joie. Oui,
pour les
allons-y.
bancs.
Oui.
Voilà. C'est paru au Marchand de feuilles il n'y a pas très longtemps, il y a un an, je crois. Un texte de 448 pages, en fait, qui réunit la correspondance entre Steve Gagnon, dramaturge, acteur et metteur en scène, et Anaïs Barbeau-Lavalette, cinéaste, autrice bien connue pour ses films et son roman à succès, La femme qui fuit. Alors, ensemble, ils se sont rencontrés aux Îles-de-la-Madeleine et ils ont voulu poursuivre la conversation, en quelque sorte, en s'écrivant sur le thème de la joie. La joie, à ne pas confondre avec le plaisir, c'est pas quelque chose de suranné, là, c'est quelque chose sur lequel on travaille dans la vie pour arriver à la joie. Et c'est pas quelque chose qui est très vendeur, mais bon. Alors, face au succès de ce livre-là, qui est finalement une joie, une manière de vivre, une joie moi je dirais ça, qui est subversive par rapport à la tendance un peu sombre de ce que nous vivons dans la société. C'est un choix de vie, c'est une manière de voir la vie. Bon, ben, les gens se sont retrouvés là-dedans et ça a été un gros succès. Suite à ça, ils ont décidé de faire un spectacle. Donc, Sophie Cadieux a fait la mise en lecture. Et il y avait Cédric Lavoie qui était à la musique, à des petits moments musicaux entre les lectures. Évidemment, le spectacle ne lit pas les 448 pages, et ça, c'est très bien réussi parce qu'ils ont pris des fragments qui décrivent très, très bien les différentes étapes de cette démarche d'amitié par correspondance, chose qui est de plus en plus rare. Et le choix des textes est par étapes que l'on reconnaît. Si on a lu le livre, on suit très bien où est-ce qu'on s'en va. Et c'est comme quelque chose qui est très,
Oups, on a perdu.
très
Oui,
intime à la
allons-y, oui.
fois, mais en même temps, il y a une très belle complicité entre les deux personnages. L'adaptation sur scène et le choix des textes est très réussi. Sophie Cadieux, il est sans doute pour quelque chose, mais peut-être que les auteurs aussi ont travaillé à ça. Le décor est minimaliste. Moi, je l'ai vu ici, elle faisait une tournée en Gaspésie et le premier spectacle, c'était à l'église Sainte-Brigitte de Maria, le 9 août dernier. Et ils ont fait le tour de la Gaspésie et là, les gens pourront le voir à Montréal, Québec. Ils font une tournée dans la province à l'automne et à l'hiver prochain. Je vous recommande chaudement d'aller voir ça. Ça fait du bien d'entendre parler de joie, d'amitié, des souvenirs que ces gens-là nous racontent sur un ton et un rythme très vivant, parce qu'ils ont des feuilles, hein, ils lisent sur des textes, des extraits, mais ils bougent sur la scène. Et puis, il y a des petits objets, mais très minimes, qui nous rappellent le sujet dont ils parlent. Leur complicité fait qu'il y a de l'humour, malgré le sujet qui parfois peut être sombre. Et le texte nous fait du bien. On sort de là, lumineux, je pourrais dire ça un peu. Et c'est 1 heure et demie environ, la durée du spectacle. Et c'est une lecture littéraire, mais je dirais un petit peu mise en scène. Donc, c'est pas fixe. On n'est pas assis devant un micro à écouter tout ça. Et malgré que nous étions dans une église où les bancs sont pas hyper confortables, 1 heure et demie a passé très vite. Alors, moi, j'encourage tout le monde à aller lire ce texte de deux personnes qui ont des choses à dire, qui témoignent d'une belle amitié, d'une belle correspondance. Et c'est rare de nos jours que des gens entretiennent des correspondances parce qu'aujourd'hui, on est dans la vitesse. Et là, ben, on fait face à tout ce qu'on traversait à travers un an ou deux ou trois d'écriture, là. Et puis, bon, ben, bref, des auteurs intéressants au départ et leur complicité, leur union créent un texte fort intéressant. Voilà.
Ben, on voit que tu as certainement aimé ça. Donc, lecture à certainement à inclure. Je vais juste rappeler, donc, c'est Architecture de la joie. C'est publié chez Marchand de feuilles en 2025. 448 pages. J'ai l'impression que ça doit se lire assez facilement. Là. Ça, des fois, les gens pensent, oh, 448 pages, c'est long, mais c'est peut-être pas aussi long qu'on le croit, là.
Comme c'est de la correspondance
Ouais.
aussi, on a hâte de voir ce que l'autre va répondre.
C'est ça,
Alors,
c'est
c'est
ça.
pas comme lire un roman, là.
Oui,
C'est
tout
ça.
à fait. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie Aubin. Puis, ben, écoute, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci, au
Au
revoir.
revoir.
Pas besoin de se mentir, par Maude Audet.
Un petit tour maintenant de l'actualité là, qui touche la diversité capacitaire et autres diversités à laquelle nous intéressons ici à Canalem. Alors, Radio-Canada, 15 août 2026, face à un achalandage estival record et inhabituel dans les hôpitaux de Winnipeg. L'Office régional de la santé de Winnipeg a ordonné à 3 établissements de soins de longue durée, le Riverview Health Center, le Deer Lodge Center et le Misericordia Health Center, d'accueillir d'urgence des patients en attente de transition. La ministre de la Santé du Manitoba, Uzoma Azagwara, défend une responsabilité collective nécessaire face à ces pressions inédites durant la période estivale. Cependant, cette décision suscite de vives inquiétudes chez les soignants et dans l'opposition politique. Darlene Jackson, présidente du syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, alerte sur la surcharge de travail sans effectifs supplémentaires alors que le personnel gère déjà jusqu'à 60 patients par soignant la nuit. De son côté, la critique progressiste conservatrice Kathleen Cook déplore une mesure temporaire et réclame plutôt un investissement durable dans les soins à domicile et les places en soins prolongés. L'Office régional de la santé de Winnipeg gère l'ensemble du réseau de santé de la région métropolitaine. Toujours sur le site de radiocanada.ca, cette fois-ci, le 16 août, atteint d'électrodactylie, une malformation congénitale rare qui ne lui laisse que 2 doigts à chaque main, le tireur de poignet Mac Jost, originaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, s'impose comme figure mondiale de la discipline au Canada. Classé 5e au pays chez les hommes seniors du bras droit, il tire profit de la morphologie particulière de son pouce pour adopter des prises uniques et rivaliser avec les meilleurs athlètes, y compris chez les valides. Passionné par ce sport depuis le secondaire, Max Jost vise un podium aux championnats mondiaux de 2027 en Ontario. Il ambitionne également de représenter le Canada aux Jeux paralympiques de 2032, alors que la discipline pourrait faire son entrée au programme officiel d'ici 6 ans. L'électrodactylie, c'est une anomalie génétique caractérisée par l'absence d'un ou de plusieurs doigts ou orteils. Puis toujours sur le site de radiocanada.ca, le 15 août, les athlètes du Nouveau-Brunswick ont fait sensation aux Jeux d'été olympiques spéciaux Canada à Medicine Hat en Alberta, particulièrement en natation où le nageur Jesse Caney de Durham Bridge a dominé la compétition en décrochant 9 médailles à lui seul, dont 6 d'or individuels. D'autres participants se sont également illustrés sur les podiums dans diverses disciplines, notamment Mary Jones en natation, Victoria Greenwood en dynamophilie, Suzanne Robichaud au jeu de diquille, Cameron Albert en athlétisme ainsi que Jenna Roberts au golf. Ces performances soulignent le succès de la délégation provinciale lors de ce rassemblement national dédié à la promotion de l'inclusion sportive pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du développement. Jane McCown, directrice générale d'Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick, dresse un bilan très positif de l'événement, marqué par de nombreux records personnels. Les Jeux d'été olympiques spéciaux Canada sont une compétition multisport réservée aux athlètes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du développement. Thank you. Le Devoir du 17 août, dans sa chronique, Nathalie Platt invite à reconsidérer la prise en charge de la santé mentale à travers la pensée du psychiatre Jean Houry. Pour qui soigner les malades sans soigner l'institution elle-même relève de l'imposture. Rapprochant la réalité d'aujourd'hui de l'héritage de la psychothérapie institutionnelle incarnée par Saint-Alban ou la Borde, où les activités du quotidien, l'écoute réelle et la déconstruction des rapports de pouvoir composaient le soin, l'autrice constate un fossé marquant avec le système psychiatrique actuel. Aujourd'hui, l'institution hospitalière risque souvent de reproduire la souffrance au lieu de l'apaiser, obnubilée par la gestion administrative, l'efficacité à court terme et le manque chronique de ressources. La situation au Québec témoigne de ce malaise profond. La santé mentale ne reçoit que 5,5 % du budget global de la santé, ce qui pousse l'Association des médecins psychiatres du Québec à réclamer d'urgence un financement accru. Cette détresse traverse toute la société, des organismes communautaires sous pression jusqu'aux jeunes de tels jeunes ou aux médecins eux-mêmes éprouvés par l'épuisement professionnel. Face à ces constats, Nathalie Platt appelle à une remise en question de nos pratiques d'accueil et de soins pour redonner à l'hôpital sa vocation première d'hospitalité. Jean Houry est un psychiatre et psychanalyste français, fondateur de la clinique La Borde et figure marquante de la psychothérapie institutionnelle. On va en musique.
Les rayons font des danses sur ton corps, baby. J'ai oublié on est dans quel pays. Je sais pas si tu doutes encore. Sucré salé comme les vagues, je pourrais être ton otage. Je sais pas si tu doutes encore. Baby, tu me testes, chasse mes complexes. J'ai besoin de plaire, faut que j'oublie mon ex. Je veux faire des excès, ma nuit est parfaite. On parle en sous-texte, on fait nos succès. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex. Faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex. J'ai attrapé le sunset, je l'ai mis dans mes proses. J'ai changé tous mes réflexes, j'ai arrosé les roses. J'ai goûté au vrai love jusqu'à l'overdose. J'ai pensé mille fois m'enfuir loin de toi pour revenir à l'aube. J'ai peur de ce que ça pourrait tenir nous deux. Mon cœur a reçu trop de balles, faut qu'il prenne du mieux. J'ai peur qu'ensemble on s'emballe, je redoute tes yeux. Je sais pas si ça fait trop mal ou c'est pour le mieux. Baby, tu me testes, chasse mes complexes. J'ai besoin de plat, faut que j'oublie mon ex. Je veux faire des excès, la nuit est parfaite. On parle en tout temps. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Oh, oh, quand tu bouges, je veux tes yeux. Je veux voir à quoi tu penses. Oh, oh, pour oublier, y'a rien de mieux. Je veux réduire la distance. Oh, oh. Baby, dis-moi ce que tu veux. Savoir si j'ai de chance. Oh, oh. J'avais pas prévu nous deux. Na, 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 na. Faut que j'oublie mon ex. 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 Faut que j'oublie mon ex.
Elle m'a dit, hey ho, qu'est-ce tu fais à soir? J'y ai dit, let's go, j'pense te prendre en char. On peut-tu se dire la vérité? On peut-tu se dire les vraies affaires? Y'a une tension entre toi et moi. Y'aurait peut-être bien quelque chose à faire. J'ai montré une photo de toi à mon père pis à mon frère. Ils m'ont dit, Joe, qu'est-ce qui se passe? Arrange-toi pas pour la déplaire. Elle m'a dit, hey ho, qu'est-ce tu fais à soir? J'ai dit, let's go, j'pense te prendre en charge. À soir, c'est moi qui te sors, je paye la tournée de Château-Bord. monde ce soir. J'imagine déjà notre histoire. Coucher de soleil, des beaux décors. Je t'ai fait de la place dans mon tiroir. Parce qu'à soir, c'est ici que tu dors. Mais est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais à l'aise? Et si jamais je tombe amoureux, ça te causerait-tu un malaise? Je nous vois nous deux, je nous vois heureux, t'es chocolat, je suis la fraise. Y'a une tension entre toi et moi, y'aurait bien quelque chose à faire. Elle m'a dit, hey, oh, qu'est-ce que tu fais à soir? J'ai dit, let's go, je pense te prendre en chance. À soir, c'est moi qui le sors, je paye la tournée de château bar. Hey, oh, je pense te prendre ce soir. Est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais à l'aise? Et si jamais je tombe amoureux, ça causerait-tu un malaise? Tu me vois les deux, je vous vois heureux, tes chocolats, je suis la fraise. Y'a une tension entre toi et moi, y'aurait bien quelque chose à faire. Est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais à l'aise? Et si jamais je tombe amoureux, ça causerait-tu un malaise? Tu me vois les deux, je vous vois heureux, tes chocolats, je suis la fraise. Y'a une tension entre toi et moi, y'aurait bien quelque chose à faire. Hey, oh, qu'est-ce que tu fais à soir? J'y ai dit, let's go, je pense te prendre en char.
Justin Roy, et ce soir, juste avant, on entendait Laurence Nerbonne, Next.
Et puis, rapidement, dans Le Devoir aujourd'hui, pionnière de la photographie documentaire au Québec, Claire Beaugrand-Champagne a dédié sa carrière à capturer le quotidien des gens ordinaires. Sa démarche repose sur une approche immersive privilégiant la durée, l'écoute et la création de liens de confiance avec ses sujets. Sa pratique s'est fait connaître en 1972 à travers le projet collectif Disraeli, une étape clé qui a contribué à redéfinir la photographie documentaire québécoise. Sa célèbre photo du violonneux aveugle Tinoir la jeunesse a d'ailleurs été immortalisée sur un timbre commémoratif de Poste Canada en 2017. En s'imposant à une époque où le domaine était largement masculin, elle a exercé comme pigiste pour des journaux comme Le Devoir et Le Jour, tout en intégrant des éléments narratifs et textuels au-delà de la simple image. Alors, ses œuvres documentant des réfugiés cambodgiens, laotiens et vietnamiens de 1980 font l'objet d'une rétrospective qui aura lieu au World Press Photo. D'ailleurs, j'ai demandé une entrevue avec elle, j'espère l'avoir d'ici là, parce que je pense que c'est une personne fort, fort intéressante pour nous. Je remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute aujourd'hui de notre émission. Je remercie Maurice Bolduc à la régie aujourd'hui. Remercie toute l'équipe de Canal M qui travaille derrière nous. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je remplace encore pour jusqu'au 31 août Hélène Denis qui sera de retour donc le 1er septembre. D'ici demain, donc, je vous souhaite une excellente journée. Puis on se reparle donc demain quelque part entre 9h30 et 11h30 ou plus, dépendant de quand vous nous écoutez et de quelle façon, parce que nous sommes aussi disponibles en balado-diffusion. Au revoir.